Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 27. Anthony oublia rapidement ce qui s'était passé ce soir-là et négligea l'entretien de la plante qui finit par mourir asséchée quelques semaines plus tard. Son rythme de vie connut une nouvelle accélération après le décès de Clark à New York dans un accident de voiture juste avant Noël. Audrey fit appel à lui pour gérer temporairement sa boutique parce qu'ils étaient, elle et lui, les seuls à parler correctement l'anglais. Ils se partagèrent la tâche et se croisèrent de nombreuses fois au-dessus de l'océan Atlantique, sans plus se voir. Le succès de la chaîne de magasins se confirma après les fêtes, et il fut rapidement question d'ouvrir de nouvelles antennes à Berlin, Madrid, Stockholm, Montréal et Pékin. Anthony enchaînait les visioconférences avec Audrey, Remo et Aoki pour préparer cela, tout en gérant son équipe de vendeurs à Paris et celle de New York par intérim. Anthony ne vivait plus que pour smartphones. Du matin au soir, sa vie était totalement pilotée par ses rendez-vous professionnels et ses voyages outre-Atlantique. De nouvelles tensions naquirent entre ses vendeurs, livrés à eux-mêmes chaque fois qu'ils s'occupaient de New York, prenant parfois des proportions inquiétantes. Un court-circuit sur le tableau électrique avait failli coûter la vie de sa vendeuse, dont l'équilibre mental commençait à vaciller, soumise à la pression et au stress. Anthony soupçonna une tentative de suicide de sa part, mais rien ne lui permit de vérifier cette hypothèse. Son absence pour maladie surchargea le planning des trois autres et obligea Bastien et Florian à travailler encore plus souvent ensemble, alors qu'ils s'appréciaient de moins en moins. Lorsque, exceptionnellement, Audrey et Anthony se retrouvaient dans un même lieu pour une réunion ou un déjeuner, leur relation était purement professionnelle et chacun d'eux avait d'autres rendez-vous à honorer ensuite, si bien qu'ils n'évoquèrent jamais leur liaison d'un soir et finirent même par ne plus y penser, accaparés par leur travail. Pendant ces longs et nombreux trajets en avion, Anthony essayait avant tout de dormir. Le rythme de sommeil bousculé par les décalages horaires incessants et les repas pris sur le pouce à des heures impossibles, il ne dormait plus que par tranches de 3 ou 4 heures en se demandant à chaque réveil où il était et l'heure locale. Plusieurs fois, il eut des absences de quelques minutes au lever où il ne parvenait plus à déterminer avec certitude le jour de la semaine et la langue qu'il devait utiliser pour commander un petit déjeuner au réceptionniste. Son labeur était largement récompensé par son salaire. Les bons résultats du mois de décembre lui avaient valu une prime conséquente à 5 chiffres, et son remplacement au pied levé de Clark multipliait quasiment son salaire par 2, alors qu'il n'avait pour ainsi dire plus aucune dépense personnelle. Il commençait à envisager de s'acheter une voiture de luxe. Il caressait doucement l'espoir depuis petit de pouvoir s'offrir un jour la mythique Ferrari Testarossa qui n'était plus produite depuis 1996, mais dont on commençait à trouver des modèles d'occasion à partir de 100 000 euros. Il consacrait les quelques minutes de temps libre qu'il avait à éplucher les annonces en ce sens. C'était au volant d'un bolide comparable que Clark avait perdu la vie. Lui aussi passionné de vitesse, on avait retrouvé sa Porsche Boxster réduite en miettes au pied d'un arbre. Il était mort sur le coup. Anthony avait appris la nouvelle par un appel de son collègue italien, qui lui soutenait que ce ne serait pas arrivé avec une Ferrari sans s'émouvoir davantage de la perte de son homologue new-yorkais. Plusieurs semaines plus tard, ces éléments ressurgirent dans un violent cauchemar qui secoua Anthony dans l'avion qui s'apprêtait à atterrir à l'aéroport JF Kennedy de New York. Le jeune homme était au volant de sa Ferrari Testarossa rouge qu'il venait d'acheter et il transportait Clark comme passager. C'était ce dernier qui lui avait déniché une occasion incroyable, un modèle unique qui avait appartenu à Enzo Ferrari lui-même et qui avait fait le tour et la ruine de quelques collectionneurs. Le pommeau de vitesse était en or massif, gravé aux initiales du célèbre constructeur italien. Clark avait demandé à Anthony de le conduire dans sa famille qu'il n'avait pas vue depuis plusieurs années, et pour cela il devait traverser la moitié des États-Unis par la route 66. Tous les clichés du mode de vie américain étaient présents dans ce rêve, du soleil hollywoodien dans le ciel immaculé jusqu'au sourire des filles blondes et bronzées qui s'extasiaient au passage du véhicule dans les villes immenses et lumineuses. Alors que l'avion traversait une zone de turbulence, le sommeil du jeune homme fut troublé et le rêve se mua en cauchemar. Un nid de poule provoqua une perte de contrôle de son véhicule dans un virage. Clark lui ordonnait pourtant d'accélérer pour permettre à la voiture de reprendre sa trajectoire. Mais le réflexe d'Anthony, voyant approcher le ravin, était au contraire de mettre les deux pieds sur la pédale de frein, ce qui avait pour effet de précipiter le dérapage. « Accélère !» insistait Clark, qui profitait de l'occasion pour administrer au jeune homme une leçon de vie un peu hors contexte. « Ce n'est qu'en accélérant toujours qu'on s'en sort. » Anthony accéléra enfin, et entendit les roues arrière crisser sur les graviers juste avant le choc fatal contre un arbre. Il ne sut jamais si son réflexe initial de freinage était le bon, ou s'il aurait dû accélérer dès le début comme Clark semblait le lui conseiller. Son collègue était mort et il devait l'annoncer à ses proches. Dans son cauchemar, la mère de Clark avait pris les traits de sa propre mère. Il lui confiait sa responsabilité dans la mort de son fils et demandait son pardon, mais elle restait totalement muette, interdite, avant de mettre son bras sur son épaule. « Réveillez-vous, nous sommes arrivés !» L'hôtesse de l'air secouait Anthony gentiment pour qu'il quitte la cabine. Il sursauta et reprit conscience nerveusement en regardant autour de lui. Il ne put prononcer un mot et se contenta de se lever pour rejoindre les autres passagers qui faisaient la queue pour descendre de l'avion. Son cœur battait de façon irrégulière et sa respiration était haletante. La position debout, immobile, lui sembla insupportable. Il manquait d'air, la tête lui tournait. Il parvint enfin à l'escalier et respira une grande bouffée de l'air vicié de l'aéroport et toussa immédiatement. Fébrile, à demi-conscient, il trouva un taxi pour le transporter jusqu'à son hôtel où il fit les 100 pas sans pouvoir trouver le sommeil. Embrouillé dans ses pensées, il songea à téléphoner à sa mère, mais il était dans l'incapacité intellectuelle de calculer le décalage horaire et craignit de la déranger en pleine nuit. Il essaya de se raisonner, prit de l'aspirine, mais la crise d'angoisse redoubla alors qu'il crut ressentir un engourdissement étrange et persistant dans le bras gauche. Il fit des mouvements d'assouplissement en tournant autour du lit et heurta la lampe de chevet de sa main. Une goutte de sang perla sur l'éraflure et il dut s'asseoir pour ne pas perdre connaissance. Fiévreux et tremblant de tous ses membres, son esprit divaguant rapidement d'un souci à l'autre, le souffle coupé et sentant l'engourdissement de son bras gagner sa jambe gauche, il se crut perdu pendant quelques minutes. Puis la fièvre tomba et son cœur reprit un rythme normal. Au bout de l'épuisement, il s'endormit enfin. En se réveillant le lendemain, les images de son cauchemar étaient encore très nettes et ses conséquences psychologiques perceptibles. C'était comme si son cerveau lui interdisait de produire le plus minuscule effort. Il avait plusieurs rendez-vous dans la journée, et il était déjà en retard pour le premier d'entre eux, mais sa vision se brouillait dès qu'il envisageait l'idée de téléphoner pour commander un taxi, et son esprit s'embrumait chaque fois qu'il essayait de se concentrer. Il resta immobile plusieurs minutes, cherchant par tous les moyens à éviter la réactivation de ses douleurs de la veille. Dans la poche de la chemise froissée et humide dans laquelle il avait dormi, son téléphone vibra juste sur son cœur. Il écarquilla les yeux de terreur, il décrocha et approcha au prix de 1000 efforts l'appareil de son oreille. C'était son premier rendez-vous qui s'inquiétait de son retard. Dans un réflexe professionnel et consciencieux, il se redressa et tenta de reprendre le contrôle de son corps. Il s'entendit prononcer des excuses et annoncer son arrivée prochaine, le temps de sauter dans un taxi. Il raccrocha avec cette idée ferme de reprendre le dessus et tenir promesse, il se leva, fit quelques mouvements pour vérifier que tout était en ordre, mais des picotements intenses embrouillaient sa tête. Il y avait comme un bourdonnement intérieur qui fourmillait derrière ses yeux et l'empêchait d'avoir ne serait-ce qu'un début de raisonnement sensé. Il ouvrit la fenêtre et regarda dans le parc qui faisait face à son hôtel des joggeurs matinaux courant avec un casque sur les oreilles. Le soleil levant transperçait le feuillage de ses rayons. Une idée saugrenue lui traversa l'esprit, comme un éclair de lucidité au milieu de l'embrouillamini à l'intérieur de son crâne. Marcher. Courir peut-être, entendre le bruit de l'humus à ses pieds, sentir le sol moussu sous ses pas. Comme un robot, il laça ses chaussures de ville et enfila sa veste sur sa chemise moite. Cette fois, son corps le laissa faire. Il était comme libéré de ses liens invisibles. Il prit le chemin du parc et y resta une bonne partie de la matinée. Son téléphone vibra plusieurs fois sur la table de nuit où il l'avait laissée.